Bienvenue à ce nouvel épisode. Cette fois-ci, nous parlons de toutes les nouveautés qui ont été annoncées à Config 2024 qui avait lieu à San Francisco cette année. Donc, on a réuni quatre designers de talent autour de la table pour en parler. Stéphanie Giroux, qui est designer de produits, Alban Grimaud, qui est également designer de produits, Fabien Laborie, qui est product designer également, Alexis Morin, qui est designer de produits responsable du design système chez Autodesk. Donc, toutes ces personnes de talent se sont rassemblées pour parler des nouveautés qu'on a vues à Config de 2024. Et c'est Fabien Laborie qui rentre en matière dès l'ouverture du podcast. Alors, si ça vous plaît, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. J'ai mis les coordonnées de chacun des panélistes sur la page. Donc, vous pouvez les contacter directement ou vous pouvez me contacter moi. Ça me fait toujours plaisir de recevoir vos commentaires. Bonne écoute!
Bon, salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de Figma, de l'avenir de Figma, de l'avenir des outils de design et de toutes ces choses-là. Et pour démarrer un petit peu ce sujet, on va parler évidemment des nouvelles features que Figma a sorties durant Config 2024. Et aujourd'hui, je sais qu'on a deux personnes qui étaient à San Francisco, là-bas à la Config. Moi, je voulais savoir un petit peu... Figma a fait cette jolie conférence avec beaucoup de monde qui était plus ou moins bien organisée. Moi, je voulais savoir deux choses. C'est quoi l'ambiance là-bas? Et puis, qu'est-ce qu'on pense des features? Mais on va y revenir après. Déjà, peut-être nous faire un petit récap de vous, votre ressenti sur toute cette ambiance là-bas. Comment vous avez vécu la chose?
Moi, c'est ma première fois à Config après l'avoir écouté à plusieurs reprises en ligne comme le commun des mortels. Oui, l'année passée, il y avait eu beaucoup de critiques sur l'organisation. Certains de ces éléments-là ont été améliorés, mais quand on y va, il ne faut pas avoir peur des gens. Il y avait au-dessus entre 14 et 17 000 personnes selon les chiffres. Donc, ça fait une ambiance très survoltée, surtout lors des annonces du keynote dans certaines conférences où est-ce que les gens y réagissaient énormément. Mais toujours un événement aussi bien léché en termes de branding et tout ça, donc
est-ce que c'est cringe quand ils annoncent des choses en plein keynote et que les gens ils surréagissent à ça, ou est-ce que c'est très honnête et genuine la réaction des gens?
Je pense qu'il y en a un peu plus que un peu plus, les gens en mettent un peu plus que d'habitude, je pense. Surtout pour certaines.
T'as l'impression d'être dans un salon avec tes amis, puis tu sais que t'as quelque chose en commun avec tout le monde. Fait que c'est un petit peu comme regarder la game de sport où t'en mets un petit peu plus, puis tu réagis un petit peu plus fort, mais c'est un safe space parce que t'es avec ton monde aussi.
C'est parce que vous créez un sentiment très bizarre chez les gens qui regardent une vidéo YouTube, puis qui voient beaucoup de monde s'extasier sur une petite feature qui a été développée, et t'es comme... Bah, ils ont juste annoncé la feature, là. Il n'y a pas besoin de crier.
Pas pas chez vous tout seul.
Non, est-ce qu'il y avait des clappers? Est-ce qu'il y avait des gens qui montraient des panneaux en disant upload
Non.
Je pense que c'est ça. Je pense que c'est l'énergie du groupe. Ouais, c'est sûr. Le fait que... je saute à la fin, là, mais ils ont fait venir une humoriste qui, elle, était designer auparavant. Ah, oui. Ça, c'était pas sur YouTube. Puis en fait, la vidéo n'est pas disponible. Alexis Gay, vous la checkerez, là. Elle a travaillé chez Google, elle a travaillé sur Google Docs d'ailleurs. Puis elle a monté un set de stand-up qui était adapté à des designers. Puis bon, c'est cringe un petit peu, mais 10 sur 10 pour l'effort qu'elle y a mis et pour le fait d'avoir développé des blagues pour ça. On était justement parmi un crowd de comparses, d'amis. Donc oui, on en beurrait épais.
C'est moins cringe que...
Je l'aurais pas fait tout seul chez nous, absolument pas.
Ouais, puis c'est moins cringe que Canva qui fait la danse hip-hop avec l'espèce de chanson et tout. Je sais pas si exact. Vous avez vu ça, mais ça, c'est dur à regarder. Mais je comprends.
Puis là, si vous aviez genre un souvenir, genre... un moment de toute cette config là qui vous a vraiment marqué là?
D'avoir réussi à piquer une jasette d'une vingtaine de minutes là, avec la VP du design de GitHub, Diana Mounter. Écoute, que je suis sur Twitter depuis des années, là, qui a un parcours fascinant.
Genre rencontré, genre one on one, là, tu l'as vraiment rencontré.
Ah oui, t'étais devant moi, puis on s'est jasé pendant 20 minutes parce que j'avais une question par rapport à une problématique qu'eux ont résolue pour GitHub entre la marque et le produit. Puis je fais face à la même problématique à mon travail. Puis je voulais lui poser des questions à ce sujet. Puis écoute, on est allé en profondeur, puis c'était merveilleux. Je me sentais super privilégié d'avoir ce temps-là.
Ouais, c'est incroyable les gens que tu peux rencontrer comme ça, puis qui sont accessibles, c'est-à-dire qu'ils sont mêlés dans la crowd, quoi. C'est vraiment le...
tu sais, tu dois un petit peu te botter le derrière, puis te dire, oui, je vais aller parler à cette personne-là, même si je les idolâtre un petit peu, là.
Tu nous as donné un conseil en off, tu pourrais le redonner.
Conseil de conférence général, et puis je dis ça ayant fréquenté plusieurs conférences à travers les années. Top conseil, allez-y seul, ça va vous pousser à aller vers les gens que vous ne connaissez pas, à faire des rencontres, et franchement, de toutes les conférences que j'ai fréquentées, c'est le meilleur cadeau que vous puissiez faire à vous-même. Ça va être inconfortable, ça sera pas toujours facile, ça va être le plus beau cadeau.
Souvenir précis.
Un truc qui te reste là.
Tu vas t'en souvenir dans 20 ans, t'en parleras à ton enfant.
Non, pas de pression.
C'est une conférence du NAF, quand même.
Oui, c'est ça. Est-ce que Figma va être encore là dans 20 ans? Non, en fait, moi, j'ai peut-être eu moins de chance, visé moins haut dans mes rencontres, mais j'ai pu avoir une discussion avec Basti Huy, YouTuber français.
Ouais. Oui.
J'ai trouvé ça, oui, oui, oui.
Oui, oui,
oui. Donc, c'était vraiment bien. Puis l'ambiance générale aussi, là, je pense qu'avant, on parlait du cringe de la conférence de début, mais je pense qu'il y a aussi on est tous vraiment excités d'être là. Ben, moi, pour ma part, j'avais vraiment hâte à ce moment-là. Donc, tu sais, c'est un peu...
Justement, ils ont annoncé plusieurs features. Je les nomme rapidement pour remettre en contexte. Ils ont annoncé Figma AI. Ils ont annoncé le UI 3, qui est un gros changement UI énorme qui change beaucoup le workflow et la façon de travailler dedans. Ils ont annoncé un nouveau produit qui s'appelle Figma Slides, qui est une sorte de Google Slide intégré dans Figma avec en ajout les features de design qu'on retrouve dans Figma de base. Ils ont fait beaucoup d'updates au dev mode pour changer leur workflow et améliorer leur workflow et leur vision sur un système et sur comment c'est développé. Et plein de toutes petites choses qui sont plus ou moins des features et des goodies, j'ai l'impression. Un auto-layout intelligent en un clic, des UI kits de design system et des choses comme Prototype Viewer, je ne sais même plus très honnêtement ce que c'est, mais plein de petites choses comme ça. Moi, mon point de vue, c'est que je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu beaucoup de choses pour les designers. Je me suis retrouvé très délaissé par rapport aux années précédentes. Mais j'aurai mon point de vue là-dessus parce qu'après, j'ai eu l'occasion de travailler sur Figma Slides pour un client et c'était un pur banger. Mais pendant la config, je me suis senti comme « Ah, c'est ça qu'on a !» Comment vous, vu de là-bas, vous l'avez senti ça? Et toi, Alban, vu de la maison aussi, je te le demanderai après, mais peut-être déjà vu de là-bas, comme est-ce que vous êtes resté sur votre faim ou est-ce que à la fin de toutes ces annonces-là, vous étiez comme « Ah ouais, ok, on n'est pas venu pour rien
». De ma part, j'étais un peu sceptique par rapport à toute la portion AI, mais ça, j'imagine qu'on y reviendra plus loin, mais j'ai vraiment bien accueilli le UI 3. Bon, j'ai eu accès il y a environ un peu plus d'un mois, donc là, maintenant, j'ai aussi un œil un peu plus critique sur ce UI-là. Mais oui, Figma Slides, vraiment, comme tu dis, c'est toutes ces petites choses-là qu'on a mis à l'intérieur puis qui ont grandement amélioré qui améliorent notre expérience au quotidien plus que des grosses patentes, comme on pourrait dire. Mais oui, c'est ça. Moi, c'est Figma Slides.
Tu l'as testé, toi?
Oui, je l'ai testé. J'ai travaillé dedans. J'ai fait des présentations clients aussi. Vraiment, vraiment bien. Ouais. La seule chose où je suis pas certaine comment ça va évoluer. Oui, moi, je suis designer. Je travaille dedans. Je fais mes propres trucs. Je suis à l'aise. C'est comment quelqu'un se l'approprie, comment faire des templates, comment s'assurer de ces templates-là, comment ils fonctionnent et tout ça. C'est le seul partie où est-ce que j'ai un peu de point d'interrogation parce qu'il y a moins de flexibilité dans le mode edit normal, si on veut. Mais sinon, pur bonheur, je vais enfin songer à me débarrasser de mon abonnement Adobe. On les salue. pour enlever tout ce qui est InDesign et tout ça de mon monde pour me tourner plus en
série. Qu'est-ce que tu faisais dans InDesign, tes présentations?
Toutes.
Ok, t'es ok.
Oui, ben okay, je suis l'ancienne designer print.
Moi, j'ai des. Ouais, non, mais je comprends. Il y a la... InDesign est tellement complet que si tu sais y faire dedans, tu trouves ton bonheur. Je comprends. Est-ce que Alexis, t'as une take différente sur Figma Slides? Est-ce que t'as eu l'occasion de le tester ou pas du tout?
Ouais, on a testé au travail. Ça fait plaisir. C'est un beau produit, c'est un beau logiciel. C'est bien pratique là, d'avoir la compatibilité avec les components, avec les mêmes styles typographiques, tout ça qu'on a dans notre design system et tout. Puis à vrai dire, la seule feature d'intelligence artificielle qui est réellement sortie, c'est le modificateur de texte par la tonalité dans Slides.
Donc c'était un peu nul, non? T'as aimé?
Bon, c'est rigolo.
Je sais pas, c'était comme tellement petit, tellement c'est très anecdotique.
Puis tu sais, on s'entend, tu peux produire le même résultat, tu vas sur ChatGPT, tu dis prends ce texte, puis rends-le plus court et plus amical, plus drôle. Puis donc tu sais, c'est pas grand-chose. Je trouve que le fait qu'il l'ait présenté sur un plan cartésien deux-dimensionnel, bah cool, c'est mignon. Mais voilà, hein, à date, on s'entend, c'est la seule fonction AI qui est sortie parce que ils ont eu le fiasco là, de... Chaque feature de AI qui a été annoncée, il y a Make Designs qui apparemment a été entraîné sur un modèle très neutre qui recrachait des designs à la Apple, à qui mieux mieux. Ensuite... Rename Layers a eu une sacrée réaction de la foule, je dois dire. Les gens étaient vraiment heureux.
Par contre, il y a un truc que je comprends pas, c'est que pourquoi est-ce qu'ils ont pas... Alors, je vais faire un peu l'historique pour les gens qui savent pas, mais ils ont annoncé Figma AI et ils ont rollback là-dessus parce qu'il y a eu une controverse sur le fait que quelqu'un a découvert que ils ont que l'AI sortait, ça ressemblait énormément à des apps d'Apple, notamment les apps météo et tout, pour Make Design, exactement. Et donc, ils ont take-off carrément la bêta du AI. Par contre, c'est là où je veux en venir, c'est qu'ils n'ont pas take-off juste Make Design, qui est cette feature qui fait des designs. Ils ont take-off aussi les features ultra utiles que moi, je me suis demandé déjà 5 fois en designant ce mois-ci et en cherchant des fichiers, comme pourquoi est-ce que je ne peux pas avoir accédé à cette recherche intelligente. Tout ça parce que Make Design a chié. Et je me dis,
je sais pas.
Pourquoi ils n'ont pas rollback juste Make Design en fait.
Mais la vraie question qu'il faut se poser, c'est quoi la raison réelle pour laquelle ils n'ont pas continué de roll out les features AI? Est-ce que c'est vraiment pour ça ou est-ce que c'est parce que finalement ils se sont rendu compte que ça coûtait extrêmement cher? Parce qu'il ne faut pas oublier que maintenant, quand même, l'utilisation de l'AI. Moi, je vous dis ça parce que pour plusieurs projets sur lesquels j'ai travaillé où on a commencé à intégrer de l'AI, il y a eu ce on commence à roll out cette feature justement avec de l'AI, etc. Et très rapidement, on se rend compte waouh, l'utilisation en fait est assez importante. Et là, on voit les coûts qui explosent. Et c'est pour ça que maintenant, il y a beaucoup de produits des SaaS, petite parenthèse, mais qui amènent les fonctionnalités de l'AI comme un add-on. Tu sais, des SaaS là sur les. Parce qu'ils se rendent compte que finalement les costs là, il va falloir les absorber.
Dans des plans plus élevés, enterprise,
alors,
tout ça.
Pour Figma, je sais pas, j'ai aucune. Je balance, c'est de la pure spéculation là, mais est-ce que finalement derrière, il n'y a pas aussi peut-être cet aveu d'échec de dire finalement, on a commencé à mettre ces features d'AI là, mais qui doivent quand même être assez gourmandes. Je veux dire, Make Design là, d'un point de vue token. En AI generative, là, être capable d'aller choper des images, d'aller chercher du texte, etc.
Rappelle que Make Design, c'est pas quelque chose qui nous génère une image, donc qui est juste basé sur une autre AI qui existe, qui est une AI générative. On n'est pas là-dessus. On génère un design avec un design responsive, des auto-layouts, quelque chose qui crée des layers de Figma. C'est pas une image que ça crée.
C'est pas un texte, ChatGPT, avec
c'est
juste
pas
un simple prompt.
Qu'ils ont rajouté, qu'ils ont pu aller piocher ailleurs.
Qu'ils ont annoncé sans aucun prix. Ils ont juste fait ces bêtas. C'est bêta.
Mais ça, c'est leur stratégie habituelle.
Oui, c'est vrai.
Ça, c'est leur stratégie.
Oui, ça va être $3 par mois.
Et Slide, la version design, il faut avoir au moins un compte pro. Donc si on a un compte gratuit, on peut pas avoir... Il y a un petit toggle design qui nous permet d'avoir accès à l'interface de Figma de base, les auto-layouts et tout, au-delà d'un Google Slide. Ça, c'est payant déjà, d'ores et déjà, même dans la version bêta. Donc oui, et après, comme d'habitude, on l'a vu de toute façon avec FigJam, avec DevMode aussi. Après un an, après la bêta, ça devient payant, ça devient un site qui coûte quand même
Comme ils l'ont fait avec des modes, hein.
Ils ont eu beaucoup de complaintes en 2023 par rapport à leur modèle d'affaires, par rapport aux freelancers qui prennent des clients, puis qui disent à chaque fois que j'ajoute un client en mode édition, je paye leur licence, ça fait aucun sens, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que vous êtes dans ce monde-là un petit peu. Qu'est-ce qu'ils ont annoncé, puis qu'est-ce qui a été fait?
Ils viennent d'annoncer justement une feature, je ne sais pas si tu l'as vu, ils viennent d'annoncer une feature pour les freelance qui est censée résoudre ça. Je n'ai pas encore testé, mais c'est comme une sorte de copie. Et bien en fait, il permet de garder ta propriété à toi, ton fichier de ton côté, mais d'en envoyer une sorte de copie dans leur team. Je dis peut-être n'importe quoi. Tu as une espèce de ownership,
tu
as encore ton historique à toi.
C'est que tu transfères ton projet
Tu restes owner, c'est qu'en gros,
tu peux garder ton ownership. Par contre, moi, ça fait 6 ans que je suis freelance, ça fait 6 ans. C'est comme le client paye, le fichier est hébergé chez lui, je suis un member dans son fichier. C'est très rare que je sois le créateur du fichier ou alors on le transfère. Donc c'est pas une grosse. Ça n'a jamais été une grosse problématique, ça, parce que avec un peu de communication avec le client, il y a toujours un moyen de le faire. Ou alors d'être restreint au début, il voit la valeur de Figma, c'est convaincu, il va payer.
Ils peuvent aller genre live,
Moi, j'ai commencé à avoir des problèmes quand j'avais beaucoup de fichiers à moi, en plus de mes fichiers clients, puis que je voulais une certaine forme d'organisation entre mes fichiers, puis que, tu sais, avant, il n'y avait plus de limites disponibles, tu pouvais faire autant de fichiers que tu voulais. Quand ils ont commencé à implémenter un peu ces trucs de limites-là, c'est là que j'ai eu pas le choix de le faire. Mais c'est vrai que généralement, on vient. Mais en même temps, c'est un peu paradoxal parce que moi, je paye Figma, mon client paye Figma pour juste qu'on travaille ensemble. Je trouve que ça a perdu un peu de l'aspect de collaboration qu'il y avait au début où est-ce que c'était tellement simple et facile de le faire.
Encore pire avec les devs.
Ouais.
Parce que ça, vous l'avez peut-être lu
sur. DevMod est pas assez payant, c'est ce que tu veux dire.
Alors, DevMod est ultra cher, les devs se sentent pris en
otage. Ça te prend une licence designer pour un dev pour avoir accès au DevMod. Maintenant, c'est ça.
Si vous allez sur l'espèce de forum de feature request et tout ça de Figma où les gens donnent du feedback et des feature requests, la plupart des sujets, c'est des développeurs qui se plaignent et qui demandent le inspect mode. Où est-ce qu'il est passé? Pourquoi est-ce que je suis pris en otage de devoir payer? Je peux pas implémenter mon design si je ne paye pas. Et ils disent, en gros, est-ce qu'un designer, est-ce qu'on va lui faire payer GitHub? C'est comme, ils essayent de renverser un peu le point de vue pour montrer qu'ils sont vraiment pris en otage de devoir payer pour avoir accès à pouvoir développer. Et ça, il y a une espèce de stratégie de Figma d'avoir les développeurs en tant que gros contributeurs, de les inclure, mais en même temps, il y a un gros côté sombre.
En fait, il y a un disconnect entre la valeur, parce qu'ils font payer la même licence à un designer qu'à un développeur, mais la valeur qui est apportée pour un designer est bien supérieure à la valeur pour un développeur d'utiliser Figma pour l'inspect. Donc c'est là, oui. Et s'ils avaient fait une licence dev pour le dev mode, à la limite, j'aurais pu comprendre, mais c'est sûr que là, effectivement, moi j'ai certains clients qui ont dit.
$15 par mois par dev.
J'ai des clients qui m'ont dit qu'on enlève les devs.
Oui, une licence dev uniquement.
Ah oui?
Oui.
Parce que moi, je me souviens que quand ils ont sorti dev mode un petit peu de la bêta version et qu'ils ont dit, bah maintenant, ça prend une licence editor. C'était une licence editor.
Non, mais
c'est intéressant ce que vous dites parce que. Moi, il y a quelque chose là, si on pourrait. Bon, je sais pas si c'est le sujet là, mais il y a quand même quelque chose qui est assez fatigant avec Figma. Je sais pas si vous avez cette perception là, mais je trouve que leur gestion des permissions, du billing, etc., c'est catastrophique.
Il faut aller tous les mois dedans, il faut le manager.
Non, mais ça vous arrive même dans le tableau un petit peu des.
Hein ? 3 mois.
Non, tous les mois.
Ouais, tous les mois.
Si tu veux, parce que t'es billé au mois. Donc, s'il y a des gens qui sont sortis de la compagnie, s'il y a des gens qui n'utilisent pas les fichiers et tout, il faut aller faire le tri tout le temps si tu veux garder ton coût bas.
L'espèce de tableau de quand tu vas dans un administrateur là, d'une team et quand tu regardes le tableau des gens, il y a certaines choses, c'est CanEdit, Editor, CanView, Viewer. Restricted et tout.
Même
moi, honnêtement, alors que honnêtement, je gère plusieurs teams Figma où je vois un petit peu, je ne comprends jamais rien et honnêtement, c'est vraiment pas. Je trouve que là-dessus, il y a sûrement des améliorations à faire.
Bah, je parlais de cringe tantôt et là, Figma est arrivé à une étape qu'on appelle en shitification du produit qu'on a eu chez Netflix, chez Amazon Prime et tout, où on met un peu plus cher, on met un peu plus de pub. Ouais, mais non, mais c'est ça. Parce que.
C'est quand même de la valeur, mais c'est plus que. Pour moi, c'est plus le problème de. Ils grossissent, ils ajoutent énormément de fonctionnalités et ils ont du mal aujourd'hui à rattacher tous les wagons.
Oui, c'est ça. Attends, quand ton app te demande de bouger tes 450 drafts toi-même et qu'il te prompte à les bouger et qu'il te bloque le sharing pour faire ça, c'est comme on est sur un niveau de décision qui n'est plus du tout user-centric on est sur un niveau de décision qui est comme, nous on avance dans ça, vous nous suivez, vous êtes pris avec nous et vous nous suivez là-dedans.
Ils ont cette crédibilité, cette légitimité, c'est aujourd'hui,
ça.
Mais...
Bah, c'est ça que j'appelle
Là où toi, quand tu parles de l'archetisation, puis on finira là-dessus, là, mais c'est quand les entreprises arrivent justement à maturité, qu'ils n'ont plus vraiment de place pour pouvoir évoluer et amener plus de valeur, et donc ce qu'ils font, c'est qu'ils réduisent les costs, et à ce moment-là tu te retrouves avec Netflix qui dit ok, je te fais par exemple un plan avec une qualité dégradée parce qu'on réduit les costs.
C'est ce qui se passe, t'as moins de draft, les devs payent plus cher pour avoir des features qu'ils avaient de base gratuitement, etc.
Bah, je pense que c'est plus transitoire peut-être dans le cas de Figma, parce qu'ils sont en train de dire, au début on était un logiciel purement de design pour les designers, et aujourd'hui ils veulent devenir cette espèce de plateforme de design où là les product managers, les designers, les développeurs, ouais, tout le monde va se retrouver là-dedans, et on se retrouve dans un gros
un truc là où ils voulaient, comment dire, même sur le plan gratuit individu, ils voulaient que tes drafts soient dans une équipe, ou un truc du genre. Ouais, c'est ça.
Moi, on me demande de bouger 400 drafts. Je suis comme, je vais jamais bouger 400 drafts. Même si maintenant j'ai payé à cause de Figma Slides pour avoir le ça faisait 6 ans que je payais même pas Figma, j'avais pas besoin, même en tant que freelance. C'est comme, j'ai pas besoin de les organiser, je fais un search, je trouve mon fichier, c'est pas grave. Mais comme, même en payant, j'ai pas envie de les remettre là-dedans, parce que j'ai pas envie que derrière ils soient encore pris en otage parce que le plan va changer. Et ça, je pense que je suis pas le seul là-dedans. Vas-y, Steph.
J'avais un peu cette réflexion-là que oui, OK, Figma était très fort dans l'aspect communauté, puis je pense que Config est un vraiment bon exemple de ça, où est-ce que les gens se sentent faire partie de cette grosse communauté de designers-là, de gens qui utilisent Figma, puis de cet enthousiasme-là. C'est juste que là, on est rendu à un certain point où est-ce que c'est tellement rendu gros qu'on essaie de taper un peu partout, puis qu'on oublie un peu la base de qu'est-ce qui les a amenés là au tout début. Là.
On a aussi un marché qui a changé, et on a aussi Canva qui est devenu un joueur immense dans ce marché, qui est en train de prendre des parts de marché à Adobe et à Figma. Et on a aussi Figma qui vient de manquer l'opportunité du siècle. 13 milliards, c'était ça le rachat par Adobe? Je ne sais plus combien c'était. 20 milliards, qui était un des plus gros rachats. Cette opportunité...
C'était pas par leur faute.
Non, je sais, mais elle a été manquée. Et maintenant, ils se retrouvent dans cette situation avec une émergence de compétiteurs comme Canva qui veulent faire le côté global aussi. Est-ce que, selon vous, c'est pas aussi... à cause de ça que Figma se retrouve un petit peu moins orienté sur ses designers.
La position de leader qui est terrible, c'est pas le underdog là. C'est-à-dire que maintenant il faut qu'ils se maintiennent, et ils ont tout le monde à leur trousse. Alors ils ont été underdog pendant longtemps avec Sketch, ils sont allés manger Sketch, sont devenus vraiment le l'outil de référence.
Selon les sondages là, ils auraient une pénétration du marché de 80%. Ça veut dire que 80% des gens qui se disent être designer dans la vie là utilisent Figma. Il y a à peu près aucun autre outil, je pense. Peu importe l'industrie là, 80%.
Même Adobe à son prime, tu penses qu'il n'y avait pas un 80%?
Ouais, peut-être, mais Sketch,
ouais.
Quark Express.
Mais pour revenir sur Figma Slides, là, juste pour recentrer un petit peu là-dessus, là, on parlait un petit peu des différentes nouveautés. Moi, je suis un peu le mauvais élève là dans la classe parce que j'ai pas encore utilisé Figma Slides. Mais la question que j'ai pour vous, elle est vraiment tout à fait honnête là. C'est qu'est-ce que ça apporte de plus? Parce que moi, je faisais déjà mes slides en Figma en fait, parce que je trouvais ça vachement plus pratique. Et là, je me dis, mais
quoi que ça apporte de plus, c'est pour tes clients. Parce que eux, ils retrouvent leur interface Google Slide. Tu mets une slide avant l'autre et tout. Bah, c'est simple. Tu utilisais Figma. Pour des slides. Quand tu avais besoin de déplacer une slide, tu devais bouger toutes les autres.
Mais non, j'utilisais le swap.
Mais quand t'avais des bugs de slides.
Tu t'as dit c'est quoi le bénéfice?
Ouais.
Speaker notes.
Ah. Ouais, en plus, ouais, aussi, c'est vrai que.
Bah, moi, j'écrivais les speaker notes en dessous, mais c'est vrai que pendant la présentation,
non,
vous avez pas.
T'as un presenter mode, t'as un Google Slide, quoi.
Ouais. Je considère pas que je suis quelqu'un qui est capable de m'exprimer de façon claire. Si tu me pognes sur un coin de table, j'aime organiser mes idées à l'écrit. Je fais un usage pas abusif, raisonnable des speaker notes dans la vie. On a monté une formation où les slides, c'était dans Figma régulier. Puis écoute, on avait une page Confluence avec les speaker notes à côté. Les gens font ce workaround-là, je crois, depuis des années.
Les gens le faisaient déjà, ouais.
Ouais, donc là, c'est intégré.
Qu'est-ce que l'utilisateur moyen peut y retrouver? Quelqu'un qui n'est pas designer puis qui a besoin de faire des slides, parce que Google Slides et PowerPoint et autres...
Et il retrouve toutes les fonctionnalités de Google Slides, sauf qu'il a son designer à portée de main pour aller tout fixer et améliorer. Moi, c'est ce qui s'est passé avec mes clients et je pense que je n'aurais pas été sur Figma Slides, je n'aurais peut-être pas pris mon mandat récemment. Parce que j'aurais pris 4 à 5 fois plus de temps pour arriver au même outcome. Là,
qu'en utilisant Figma de base.
Parce que j'allais faire mes choses dans Figma de base, j'allais les copier-coller, c'était des auto-layouts. Je le faisais dans Figma Slides comme si j'étais dans mon design de Figma. C'est comme, j'avais aucune différence.
L'accès aux styles et tout,
mes
ça doit être extraordinaire.
Ça, c'est impeccable. Pour le client, il les réutilise et tout. C'est comme, c'est vraiment seamless comme expérience. C'est un peu buggy parce que c'est encore bêta et tout, mais comme, il y a vraiment un aspect où enfin, il y a un outil pour designer pour faire des slides avec, en plus on n'a pas parlé, mais il y a le prototypage et tout. Bon, ouais, c'est un peu overkill de l'utiliser dessus, mais
il y a des activités d'interaction avec le public en temps réel aussi.
Ah ouais, ok, ils ont amené quand même beaucoup de choses. Okay,
c'est un peu gogos, mais ils sont comme appuyés sur le fait que on est déjà multiplayer par défaut. Qu'est-ce qu'on peut rajouter qui vient comme bonifier l'expérience de soit rédiger des diapos ou de consommer des diapos quand t'es le public?
Puis je vais mettre mon chapeau d'enseignante. J'ai monté ma première année que j'ai enseigné, j'ai monté mes diapos dans Figma totalement parce que je trouvais ça plus simple pour moi de jouer avec le design. C'était un bordel d'exporter ça pour mes étudiants pour leur donner une version PDF parce parce que je voulais leur donner l'entièreté des slides dans le bon ordre et tout ça. J'avais énormément de difficultés. Après ça, j'ai vécu le calvaire Microsoft PowerPoint, mais qui t'amène une certaine facilité là. Après un certain moment où est-ce que tu te fâches après le logiciel parce qu'il ne fait pas exactement ce que tu veux, tu gagnes une certaine efficacité, mais de revenir dans Figma Slides, ça a vraiment été super pour moi parce que justement les speaker notes qu'on retrouve dans tous les logiciels de présentation, mais avec aussi, tu sais, les activités en enseignement, on utilise beaucoup Menti ou ce genre de choses-là où est-ce qu'on fait des activités avec les étudiants. Bon, là, ça reste des trucs très orientés produits, mais d'intégrer ça à l'intérieur pour créer de l'interactivité sans avoir à sortir de ta présentation, aller sur un autre URL, revenir et tout ça, pour moi, c'est vraiment bien.
Pour ça, pour moi, ils ont un peu killé game, c'est vrai, hein, parce que l'aspect, justement, récupérer tes slides, le côté collaboratif sur les slides, c'est, toi, tu l'as vu avec ton mandat, justement, là, mais le fait de pouvoir
directement collaborer real-time avec les commentaires, etc., dans les...
Ouais, c'était absolument... Puis mes clients, ils mettaient eux-mêmes leur presenter en note, des fois, ils changeaient leurs choses, ils mettaient leurs commentaires, ils se sentaient à la maison, alors que on parle d'un CEO, on parle d'un CTO, ils ont pas forcément joué dans Figma. Ils étaient autant à l'aise, ils ont juste eu à se login et puis voilà, c'était fini quoi.
Chercher des cues de design d'interface très PowerPoint, très Keynote.
Mais à la sauce Figma.
Exactement, à la sauce Figma. Donc, t'es lancé là-dedans, pis c'est immédiatement super familier comme environnement. Google Slides aussi, là, t'as la vue, t'as une diapo, t'as la vue en grille, tu peux réorganiser ta grille. Écoutez, c'est bien.
Puis la question que j'ai, c'est donc ça, pour ça, maintenant, ils vendent ce produit-là comme FigJam, c'est-à-dire qu'il y a une licence.
Pour l'instant, il est gratuit.
Mais si tu veux toggle
ton petit...
Mais connaissant Figma, ça
veut dire pas de payer. Si tu veux ton petit design mode pour jouer avec tes auto-layouts et tes styles, okay, et toute l'interface de droite là, de Figma quand tu sélectionnes un component, pour pas être pris dans une interface très Google Slides, là tu dois payer.
Et là c'est une licence.
Tu dois être pro. Non, tu dois juste être pro.
C'est-à-dire que t'es pas sur le free plan.
T'es pas sur le free plan, donc tu dois être payant. Tu dois être éditeur, mettons, sur un... Dans ta team, tu dois avoir...
Ouais, exact. Ouais.
Ok, parce que j'ai à la fin, mais je me dis, mais t'es dans Figma, faut que tu te deals avec tes 3-4 licences. Ok, parfait.
Pour le coup, ça c'est quand même assez smart de leur part.
Donc qu'est-ce qu'on peut dire finalement que cette nouveauté,
ça,
c'est la nouveauté,
ça, c'est la réussite
2024, Figma,
ça, c'est la réussite. Okay. Ça répond à un problème d'aujourd'hui, ça concurrence un petit peu qui il fallait concurrencer, ça parle au PM, ça parle aux designers qui ont toujours fait leur stress dans Figma anyway, c'est comme ça, c'est la vraie réussite.
C'est une belle
tech
parce que justement pour faire le lien avec le business et puis aller chercher justement les personnes qui sont product manager ou les gens de marketing, etc., c'est un beau produit. C'est UI 3 effectivement, on le disait tout à l'heure, l'éléphant dans la pièce là, mais c'est moi, j'ai appréhendé la chose en me disant, ok, sois pas résistant au changement, fais pas ton paper en disant, oh là là, il y a des nouveautés, machin. J'ai dit, ok, essaye quand même de embrace le UI 3, etc. Puis là, ça va faire pareil, 3 semaines, 1 mois, peut-être plus d'un mois que peut-être que j'utilise. Peut-être 3 semaines, un truc comme ça. Ouais, moi j'ai switché assez rapidement. J'ai re-switch back sur l'ancien. Je me suis dit non, allez, sois plus courageux. Je suis revenu sur l'UI 3. Et je dois avouer que je m'y fais toujours pas. Et encore aujourd'hui, là, je me souviens m'être dit mais pourquoi ils sont allés me cacher ça dans un sous-menu ? J'ai l'impression que des choses que j'utilisais énormément, qui étaient accessibles en un clic, aujourd'hui me prennent 3 clics. Des choses hyper importantes. Et moi, ça me.
Donc vous les prenez bien ces commentaires, ces retraits-là.
Non,
c'est pas juste une modification.
Non.
Et Figma non plus. Figma a écouté ses utilisateurs. Le product designer de UI 3 est venu sur
Twitter et est venu poster 10 updates au UI 3 pour fixer les plus gros.
C'est son problème, ouais.
Content qui était plus une checkbox, etc., etc. Par contre, c'est sûr que moi je partage un gros. Il y a 2 choses que je partage là-dedans dans ce que j'entends. C'est comme moi, pourquoi je suis retourné tout de suite à l'ancien UI qui n'est pas dispo sur Figma Slides. Donc quand j'étais dans Figma Slides, j'étais quand même obligé d'utiliser l'autre. Ce qui était correct. C'est pas une question de conservateur, c'est une question que quand tu fais du design system et que tu fais des choses assez deep et assez répétitives, c'était beaucoup plus caché d'avoir les mêmes fonctionnalités et ça m'embêtait. Alors je savais à peu près où elles étaient, mais mon workflow devenait beaucoup plus lent de devoir les chercher et tout à ce moment-là, même s'il y a beaucoup de choses qui font du sens. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'il y aurait dû avoir une sorte de release incrémentale. Oui. Ça veut dire que, ok, le nouveau UI avec le nouveau vraiment UI, la nouvelle interface, le nouveau make-up, et quelques petits changements. Mais là, il y a tellement de choses qui ont changé en même temps que quand ton mouvement, ta mémoire musculaire t'amène à un endroit et qu'à cet endroit-là, il n'y a plus rien du tout par rapport à ça, c'est que tu te sens vraiment perdu et que tu n'arrives même plus à le retrouver dans le même endroit. Les toolbars qui étaient très contextuels, on ne sait plus du tout où elles sont alors qu'elles étaient ultra pratiques. Tu sélectionnes un component, tu as ta toolbar du component en haut, des choses comme ça qui étaient super contextuelles. Ça, c'était vraiment un workflow qui marchait bien et qui aujourd'hui a beaucoup disparu dans 4 clics cachés qu'il faut savoir où c'est.
Surtout que Figma veut continuer de pousser énormément tout ce qui est design system. C'est un peu contradictoire de venir cacher les features de design system loin quand ils veulent que les gens créent de plus en plus ça. Mais pour peut-être nuancer un peu plus, il y a des choses quand même qui fonctionnent bien.
Oui, avoir réuni.
Oui, ben il y a aussi en termes de l'interface de manière générale, pour avoir, habituellement, je travaille sur un grand écran. J'avais beaucoup de problèmes avec les panneaux du côté qui étaient, je devais trop grand, trop petit. Puis quand j'arrivais sur uniquement mon écran de portable, j'avais énormément de difficultés à travailler sur Figma sur mon portable à cause justement de ce manque de flexibilité-là que le UI 3 vient répondre quand même de manière assez.
C'est là où je parlais d'incrémental.
Je vous confirme que la facture Enterprise est aux 3 mois.
Ah, OK.
Ah, mais Enterprise, OK. Mais c'est différent, oui. Ouais. Mais ouais, je suis d'accord avec toi que comme...
Mais là, on fait l'éloge de la sidebar de droite qu'on peut redimensionner, là, c'est ça?
Ouais. Mais tu vois, c'est comme pourquoi ça, c'était pas juste une... Tu regardes des produits comme Framer, toutes les 3 semaines, ils font un mini-post avec comme une feature de dingue qui est game changer. Ils le marketent comme une toute petite feature alors que c'est un truc de fou. Figma, pourquoi ils ont pas roll-out des mini-choses comme ça? Ouais, voilà. Ils veulent l'effet marketing. Et ça c'est dommageable pour tout le monde.
Oui, mais aussi, bon, d'autres petites choses, c'est de pouvoir, moi, facilement, souvent, je fais des présentations à l'intérieur de mes maquettes. J'utilise presque plus le mode de présentation. Alors, de juste facilement fermer tes...
Ah, mais j'utilise le pomme backslash beaucoup, là, juste pour cacher les tout le temps.
Ah, toi, t'es... Ah ouais, vous aimez bien
sûr,
ça. Ah,
backslash, ouais. Moi, je le fais très souvent. Quand je montre...
C'est rien de nouveau.
Non, rien de nouveau, c'est pas nouveau, exactement. C'est pour ça, quand ils ont ramené le bouton pour, comme, cacher les barres, j'étais quand même... En fait, ce que je trouve dommage, d'ailleurs, c'est que quand ils ont fait cette fonctionnalité, le petit bouton, justement, justement qui permet de cacher.
Pour moi, c'est pas une fonctionnalité, c'est un fixe.
Non, mais ça aurait pu être sympa si jamais il l'avait fait en mode c'est genre un peu comme si je veux revoir mes barres, je peux aller sur les bords de l'écran et
oui,
ils réapparaissent.
Bah c'est ça, c'est un fixe.
Mais ils ont pas
c'est
fait comme... ça. Maintenant,
elle
ils ont
était
pas
disparue,
fait ça.
Tu connaissais pas le shortcut, tu devais retourner
exact.
Dans tous les shortcuts pour savoir comment la faire revenir.
Ouais, exact.
Mettre
mais
un bouton,
mais je trouve ça bête d'avoir juste mis un bouton pour changer le pomme backslash que tout le monde utilise.
Attends, que tout le monde utilise.
Non, il y a des gens accidentellement, ils le faisaient disparaître et ils étaient perdus.
Ah oui, ok. Non, pour moi, c'était.
Attends, il faut de la flexibilité pour nos utilisateurs. Un peu de UX, là, ici.
Exact.
Là.
On s'entend qu'il y a certaines fonctionnalités qui étaient disponibles à travers comme trois méthodes. Right? Si tu voulais créer une composante, je pense que tu avais un raccourci en haut quand tu avais sélectionné un frame. Drop down, clic droit, et tu avais commande option K.
Exact.
Ouais. Donc,
c'est rien de nouveau de dire que tu as deux façons de faire la même chose.
Non, je suis bien d'accord avec ça. Parce que là, c'est que je trouve ça dommage qu'ils aient juste dit que le bouton, ça permet juste de faire un peu la même chose, alors qu'ils auraient pu faire quelque chose de super smart, où au final, ça se cache, mais si jamais tu veux accéder à tes barres, tu peux aller les faire réapparaître
mais
un petit peu comme le dock.
La barre contextuelle a disparu, on est d'accord. La barre contextuelle, elle a disparu. Celle que moi j'utilise beaucoup en haut, justement, la barre noire.
Oui, en effet, elle a disparu, elle est rendue comme camouflée un peu partout.
Voilà, et ça, c'est ce qui me rend le plus fou ça. Parce que c'est.
Ils n'ont rien enlevé, mais tout est contextuel, tout est caché. Il y a plus de clics des fois. Puis...
Moi, le truc qui m'insupporte, c'est le fait d'accéder au. Quand tu fais go to main component là, tu sais, parce que moi j'utilisais beaucoup ça quand je devais updater des composants, etc. Là, faut aller dans le drop down. Maintenant, faut aller dans le drop down du composant dans la barre de droite pour aller chercher le sous-menu go to main component.
Il y a une nouvelle icône qui était avant l'icône de la librairie externe qui ressemble énormément. Donc, t'as l'impression que c'est la librairie externe, mais tu mets ton switch en dev mode et tu vas voir qu'en dev mode, c'est l'ancienne icône aussi. Donc, les icônes elles sont même pas encore cohérentes entre elles. Donc, en fait, ils ont fait trop d'un coup. Et il y a trop d'incohérences qui ont été créées là-dedans, et je trouve ça très dommage parce qu'il y a plein de bonnes idées, mais tout d'un coup, ça fait trop mal à tout le monde.
C'est difficile à faire. Je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse à ce problème-là. En tant que designer, c'était courageux que de le tenter en une manœuvre, sans blague, là. Je trouve qu'a priori, il y a des difficultés. Je réussis quand même à vivre day-to-day avec le UI 3. Je fais ce que j'ai à faire, puis je me dis... Je me serre les dents un petit peu, je vais m'habituer, je vais trouver les trucs, c'est pas final. Et tu sais, je sais pas si tu te souviens, mais en dedans de comme une ou deux semaines d'avoir sorti le UI 3, ils ont déjà, ils avaient mis sur Twitter.
Ça, ce genre, ils
ont dit, hey, on a eu votre feedback, on a réparé 10 trucs déjà. Je pense qu'ils vont continuer de faire ça. J'ai confiance.
Moi aussi, j'ai assez confiance.
En effet, il y a certains trucs qui sont comme cachés, fâchants, tout ça.
Et est-ce que le logiciel perd de sa connexion avec un nouvel utilisateur? Quelqu'un qui commençait il y a quelques années, le logiciel était très simple, tu démarrais assez rapidement. Est-ce que c'est encore ça?
C'est dur à dire, on est trop biaisé et ça reste un logiciel pro, tu démarreras pas rapidement si tu veux faire du design system et des choses comme ça. Si tu veux faire du vecteur et des choses comme dessiner des rectangles comme tu ferais dans Miro ou dans FigJam, oui c'est facile, oui c'est correct, mais à partir du moment où tu veux faire du design system et des choses complexes, c'est comme quand tu veux faire de la photo manipulation sur Photoshop, bah c'est compliqué et des fois il n'y a pas d'autre moyen que de devoir apprendre et que ce soit compliqué quoi.
Moi je sais pas vous, mais moi je trouve que l'interface, je la trouve moins lisible. Alors je sais pas si c'est le fait qu'ils... j'ai des fois même l'impression qu'ils ont comme réduit la fonte, ou en tout cas ils ont augmenté la densité d'affichage, en tout cas dans le panel, le right panel là à droite.
Mais je pense que l'option est maintenant disponible d'augmenter la police, la taille de la police par défaut et le UI scale qu'ils appellent. Donc tu peux dire affiche-moi tout à 1.5x, ce qui n'était pas une option auparavant, et on s'entend, la taille de police de Figma était super petite.
Oui.
Ça manquait de contraste et il y avait beaucoup de crème UI dans UI 2, puis je sens que c'est sur une pente remontante vers UI 3.
Tu sais, j'en pense aussi juste d'un autre truc, mais tu sais, par exemple, quelque chose que j'utilisais beaucoup, c'était l'outil qui permet en fait de mettre les constraints et de dire par exemple où tu vas ancrer les éléments, tu sais, dans un frame. Ça, maintenant, c'est tout petit, pareil,
oui.
c'est minuscule.
C'est beaucoup moins
ce
utilisé
bouton.
Parce que si tu utilises l'auto-layout, t'en as beaucoup moins besoin et peu de monde savent s'en servir parce que c'est aussi l'ancienne manière. Je le comprends, le move, mais c'est vrai que des fois. Se faire un clic de plus devoir aller chercher et tout, c'est... Mais ça, c'est un move que je peux un peu comprendre. parce qu'il y a une espèce de logique comme tout ça, de les avoir remis dans tout ce qui est position, d'avoir remis dans position, tout ce qui est layout, d'avoir remis dans layout quand ça devient auto layout.
Tu sais, les objets aussi maintenant sont comme mixés quand tu utilises l'auto layout. Si tu vas choisir justement fill, hug, etc. Maintenant, en fait, t'as comme tu viens over, tu sais, tu mets par exemple fill, tu viens over, ça t'affiche la dimension en pixels parce qu'effectivement cette dimension devient entre guillemets secondaire, à partir du moment où tu dis voilà, je veux un hug, je veux un fil, etc., tu veux pas fixer une dimension.
La courbe d'apprentissage est un petit peu plus grande qu'elle était avant, parce que pour répondre à notre question, où est-ce que, ben oui, il y a des concepts que si tu arrives du jour au lendemain sur Figma, pour avoir montré beaucoup à des designers de faire le changement, qu'il y a des concepts, l'auto-layout en particulier est un concept qui est assez unique à Figma, qui est difficile à apprendre au départ. Donc, c'est là où est-ce que le bas blesse un petit peu, où est-ce que là, c'est vraiment plus compliqué à apprendre qu'il était auparavant parce que ces features-là étaient séparés.
On a beaucoup parlé de ce qu'on aime moins, mais j'aimerais bien qu'on parle un peu de ce qu'on a aimé. À la fois des fonctionnalités ou des... Alors, moi, j'ai deux questions pour vous. La première, c'est est-ce qu'il y a des nouvelles fonctionnalités que vous utilisez déjà qui ont amélioré votre quotidien, disons. À part Figma Slides, auquel on a un petit peu parlé, qui est un peu plus un nouveau produit, mais... Ouais, quand même. Même côté DevMode, est-ce qu'il y en a parmi vous qui utilisent déjà des nouvelles fonctionnalités DevMode avec leurs collègues développeurs qui seraient déjà dessus?
On a beaucoup de développeurs chez nous qui utilisent... c'est partagé, en fait. Il y en a sur Zeppelin, il y en a sur DevMode. Zeppelin, parce que c'est ce qu'il y avait avant, puis c'est leur habitude, sans leur en vouloir. Mais c'est à peu près 2/3, 1/3. 2/3 sur DevMode, 1/3 sur Zeppelin. T'sais, on a rien déployé de Code Connect ou tout ça. Ouais. Figma ont comme rendu ça un petit peu plus difficile, mais plus puissant en même temps. Donc, il y a une taxe à payer, mais il y a un bénéfice à aller chercher par après. C'est quelque chose que je regarde sérieusement pour notre librairie, pour vraiment mettre à niveau les devs qui ont les yeux rivés dans Figma pendant plusieurs heures de la journée pour faciliter leur workflow. Mais on fait ça en mode recherche utilisateur. On ne va pas le rajouter à notre design system juste parce que ça existe. On veut aller voir comment est-ce que les devs travaillent, qu'est-ce qu'ils ont besoin, puis quelle information entre Figma et notre code React qu'on peut aller chercher puis leur présenter comme ça. Ça, je pense que ça a beaucoup de potentiel. J'ai parlé au developer advocate de Figma parce que, bon, j'avais testé leur premier feature qui s'appelait Code Snippet Editor, qui était une espèce de langage de templating plutôt cool. Ça allait lire les propriétés que tu rajoutais à un component. Et selon ce qui était activé, tu pouvais, oui ou non, activer des lignes de pseudo-code qui étaient copiées, collables. C'était cool. Mais c'était complètement comme agnostique. Si c'était du React, ça ne savait pas que c'était du React. C'était du texte. Mais j'ai bien hâte à ça. Mais bon, ça vient, comme je t'ai dit, ça vient avec une taxe à payer, dans le sens où tu dois écrire, pour chaque component, tu dois écrire un adapteur entre ton code et la composante.
Et à contrario, est-ce qu'il y a des features, des fonctionnalités ou des améliorations qui n'ont pas été annoncées que vous auriez aimé avoir dans Figma?
Des années là, que je ne sais toujours pas pourquoi c'est pas faisable, mais c'est pouvoir utiliser des styles ou des variables dans des gradients.
Ah mais c'est là?
Oui, ils l'ont fait.
C'est là?
Avec les styles?
Ouais. Ouais.
Ah ouais, ça y est.
Tu peux utiliser.
Parce que j'ai essayé.
T'as un onglet styles et un onglet library ou variable et tu peux aller utiliser.
Dans les gradients?
Alors peut-être pas les styles. T'as raison. Juste les variables. Juste les variables.
Ouais. Dans les variables, ok.
Pas
les
styles, ok. Pour tes opacités, il faut que t'aies une variable par opacité.
Ah bah voilà. Alors par contre ça me fume.
Non, ça me.
Ça me fume.
Oui. Parce que les gradients sont très axés sur opacité, mais.
Non mais même une opacité. T'as raison. C'est que demain tu prends une couleur de ton style et puis tu veux juste appliquer une opacité, il faut que tu crées un style ou une variable. C'est incroyable. Ça par contre je comprends pas par exemple. Parce que c'est même pas. Oui et non, parce que finalement c'est pas comme ça que
les... Oui non, parce que tu devrais avoir un second token qui est de tokens d'opacité et combiner les deux tokens.
Puis moi je veux dire côté dev en fait ils vont pas dire on va créer une nouvelle variable pour mettre une opacité. Ils vont appliquer l'opacité sur la variable couleur et...
Ça dépend de l'approche. Il y a un nouveau truc, les couleurs CSS Relative Colors, tu peux faire ça. mais en soi, tu crées une nouvelle couleur. C'est comme si tu créais un nouveau style.
C'est ce qu'ils ont fait avec les, c'est ce qu'on fait avec les variables. C'est-à-dire que maintenant, dans Figma, les variables, tu peux finalement avoir.
Tu appelles une autre variable, tu veux dire?
Tu appelles une autre variable. En fait, tu as une opacité, mais qui va être appliquée à ta variable. Et puis ta variable, en fait, inclut l'opacité. Là.
Oui, oui.
Ah, tout à fait.
Moi, c'est la gestion du texte dans Figma. Je trouve qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de issues si tu utilises des styles.
On sent la film design, là.
Oui, ben,
avec
c'est
le
ça,
style override.
Oui,
le qu'on
style
avait aussi dans Sketch. Ouais,
ouais,
d'accord. Ouais, ouais, ouais.
Ben, en fait, parce que je vis la friction au quotidien de présenter des maquettes où est-ce que je peux pas mettre des exposants.
Ah oui,
je peux pas mettre des faut que je crée des styles pour du souligné, pour mes liens hypertextes. Pour travailler sur un site web informatif avec beaucoup, beaucoup déjà de styles de texte, ça vient rajouter de la lourdeur, alors que... Puis même certaines choses comme certains wraps qu'on a en code, d'avoir, admettons, un lien, le texte qui vient se mettre en deux lignes, mais d'avoir un lien hypertexte, mais mon lien hypertexte...
Ou même une icône entre le texte. Une icône au milieu d'un texte.
Oui, exactement. Tu sais, des liens avec l'icône de...
Sans avoir à casser
sans avoir
au-delà
à casser
du style,
tout.
Sans avoir à casser ton texte en plus, quoi.
Je trouve que de ce côté-là, Figma devrait vraiment tenter vraiment de se rapprocher du code parce que c'est faisable en code.
J'aime où on s'en va.
Ça me crée vraiment des problèmes au quotidien où est-ce que les preneurs, ils sont comme, oui, mais l'exposant, il n'est pas en exposant. Ah, plus près.
Alors justement, vas-y.
Vas-y,
parce qu'on veut les entendre.
Je fais de la gestion des design system. Et puis, bon, vous savez, si on modifie une composante principale, on doit la publier pour la rendre disponible. Si on oublie de publier, les publications non publiées s'accumulent. Il n'y a aucun moyen à ce jour de déterminer qu'est-ce qui a changé entre la version qui est publiée actuellement et la version qu'on va publier dans 2 minutes.
Attendez, ce panneau-là maintenant.
Si tu reçois une mise à jour, tu vois la différence.
Ouais.
Si tu publies une mise à jour, toi en tant qu'auteur.
Qu'est-ce que tu vas overrider? Parce que tu veux savoir, si je pousse modification, ça va tu impacter combien de choses?
Tu ne le vois pas. Et je le dis à mes équipes, je suis désolé, si on ne se souvient pas dans notre mémoire.
Qu'est-ce que tu vas casser?
En viande.
C'est ça.
Qu'est-ce que tu vas potentiellement casser?
Ouais.
Alors, si tu n'as pas pris des notes alors que tu faisais tes changements puis tu n'as pas fait des tests et que tu t'en souviens pas.
Je suis d'accord.
Donc, je vous jure, ça m'arrive quand j'ai 120 changements à publier, je fais un YOLO publish. Puis je vous dis, écoutez,
hey, les gars, attention, ça a peut-être cassé ou pas.
J'aimerais te dire que c'est une blague, ce n'est pas une blague.
Non,
je le fais pour vrai.
C'est vrai, même en code, quand tu vas faire un commit, quoi que ce soit, tu es capable de voir dans GitHub, qu'est-ce qui est supprimé, qu'est-ce qui est rajouté.
Il y a un vrai problème de visibilité.
Mais pour ça, je te disais, Abstract, je faisais un petit peu la blague, mais Abstract, tu te souviens, le logiciel pour Sketch qui permettait de faire justement du versioning, etc., te permettait, quand tu allais pousser quelque chose, te faisait quelque chose un petit peu de style, voilà ce qui va changer, voilà ce que tu vas. C'était assez bien fait d'ailleurs. C'est
un concept qu'on pourrait définitivement reprendre.
Ça, puis le foutu UI de gestion des variables qui est de la merde.
C'est bêta. Est-ce qu'il s'est encore marqué comme bêta ou pas les variables sur...
Ouais, je pense que oui. Si, je pense que oui. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi c'est de la merde. Pourquoi le UI, qu'est-ce qui te pose problème dans ce UI?
En ce moment, c'est impossible de déplacer une variable entre une collection et une autre.
Ouais,
donc supposons que tu as un bouton de couleur marque primaire qui est bleu, parce que c'est toujours bleu. Tu peux pas le déplacer si tu as une collection qui s'appelle Semantics puis tu as une autre qui s'appelle je sais pas quoi. Tu peux pas le déplacer, le lien va pas se conserver. Écoute, tu peux pas right click and move, tu peux pas drag and drop, il y a rien à faire.
Donc tu le delete et tu le recrées.
Mais après ça, après ça, le bobo, c'est que tu dois retourner partout et les consommer. Ah non, c'est vraiment... ça fait vraiment mal. Donc, il y a beaucoup de tutoriels qui existent sur Internet qui font de la tête un peu à ce problème-là, qui disent, faites vos collections d'avance, puis trompez-vous pas, puis on va vous recommander comment monter le truc.
Vrai, ouais. Le représentant Figma de Montréal, si vous nous écoutez, là, t'as fait quelque chose?
Je pense que...
oui, c'est bientôt Noël. Exaucer nos vœux.
Bon, et justement, on a bien parlé des problématiques que Figma a à
être pas assez proche du code malgré... On a eu une période Figma, moi je me souviens d'une période Figma 2020 peut-être, qui disait comme on embrace le fait qu'on n'est pas du code, on crée une espèce de scission mais on fait un beau pont. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce côté marketing-là, ce positionnement-là. Et là aujourd'hui on a un positionnement très très différent, on a un positionnement bridging the gap. Mais je trouve que la dette, personnellement, la dette de Figma, la façon dont Figma est buildée, a une dette énorme comparée à pas mal de concurrents sur le fait de bridge the gap, dans le sens où ils ont un framework, une façon de faire qui est vraiment trop loin du dev. On l'a vu aujourd'hui, on a parlé beaucoup d'inconsistance. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est un petit peu l'avenir de Figma selon vous ? Dans cet univers où on a des framers qui sont sur le marché, qui sont rapid growth, qui grandissent très très rapidement, on a des web, on a du no code qui est super seamless, qui est parfait pour les designers qui n'ont pas besoin de connaître quoi que ce soit en code pour l'utiliser. Si je connais Figma, je vais dans le framer, je ne suis pas perdu, je peux publier un site web vraiment de façon super facile. Webflow, une petite courbe d'apprentissage en plus, mais c'est faisable. Et après, on a tous les autres joueurs comme Squarespace, etc., qui font des sites web vraiment pour les gens qui ne sont ni designers, ni codeurs et tout. Je pense qu'eux, on va moins parler d'eux, mais Webflow, Framer, on a ces outils no-code.
Penpot aussi, hein, je crois.
On va en parler juste après, ouais. Parce que je veux rester sur les outils no-code aujourd'hui. Est-ce que no-code, on est plus sur... C'est un marché différent ou est-ce que Figma devrait s'en aller vers là? Je vais essayer de simplifier cette question.
En fait, je pense que les no-code actuels de Webflow, qui est là depuis quand même un certain moment, et Framer, qui est devenu vraiment populaire dans les deux dernières années, ont une bonne avance sur Figma. Donc, il va falloir qu'ils rattrapent assez vite les joueurs qui sont devant dans cette situation-là. Puis, ils commencent de plus en plus à rajouter de features pour bridge the gap, donc les slides, tout ça. À un moment donné, il va falloir qu'il y ait une concertation ou quelque chose, tu sais, de pas trop s'étendre puis d'un peu se recentrer sur l'essentiel. Mais oui, je les verrais aller là parce qu'ils ont déjà des éléments de réponse avec tout ce qui est DevMode et tout ça, mais il va falloir rattraper les leaders.
Ouais, Figma va nous sortir un bouton publié sur le web très prochainement. C'est ma prédiction. Après ça, tout ce qui est design mobile d'application, tu peux pas faire ça dans du no-code, pas pour l'instant. C'est encore un marché très fort. Donc je pense qu'il y a un overlap pour tout le monde qui fait du web. Tout le monde qui ne fait pas du web, par exemple, on est encore pogné là.
Toi, Alban, t'as une take là-dessus?
Mais moi, l'affaire, c'est que j'ai un peu un problème avec ça, plus philosophique, c'est-à-dire que, en fait, ce que j'avais aimé avec Sketch à l'époque, déjà, quand ils avaient un petit peu takeover le marché par rapport à Photoshop qui était existant, c'était de pouvoir dire, regardez, les designers, il faudrait que vous vous rapprochiez un petit peu du langage des devs. C'est-à-dire de dire, on va vous donner un outil qui, finalement, va vous limiter dans ce qui est possible de faire en dev, c'est-à-dire que tu pourrais pas faire n'importe quoi comme tu
c'était
pouvais faire.
C'était aussi la tech de Figma jusqu'à 2020-21.
Exactement,
ouais.
Et puis Figma a suivi, en fait. Figma a finalement repris un petit peu les préceptes de Sketch et puis a amené ce côté collaboratif, c'est là où ils ont réussi à les prendre de court, et puis avec aussi l'histoire de la marketplace de plugins, etc., qui leur a amené l'auto-layout, etc. Donc bon, je pense que c'est ça qui a fait effectivement le succès de Figma genre 2020 par là. Le problème que j'ai avec ça, c'est que moi, j'ai l'impression que on a tous à gagner à favoriser la collaboration entre les designers et les développeurs. C'est-à-dire que de dire que les développeurs et designers travaillent main dans la main ensemble, que on n'est pas en train de dire ok, il faut absolument que ton Figma, que ton design vive par lui-même comme étant en fait une sorte de livrable ultime, alors qu'au final un fichier Figma n'a aucune valeur. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas ça qui va générer du business pour l'entreprise. C'est le code, c'est ce que vous retrouvez sur prod. C'est finalement le voilà. Et en fait, ce qui m'embête un petit peu aujourd'hui avec la direction et la tendance que prennent tous ces outils un petit peu de design, c'est qu'ils viennent à dire regardez, on va manger un petit peu sur les plates-bandes du code parce qu'on va te permettre de faire plein de choses
tu
sans avoir
4 heures à prototyper quelque chose. Qui va être refait par un dev ultimement.
Ou alors, ou pas. Et donc, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est on déplace cet espace, on recule encore une fois cette espèce de point de collaboration avec les devs en disant regarde, les prototypes, on va les faire nous-mêmes, regarde, on va même pouvoir publish nous-mêmes des designs, t'auras même pas besoin de coder. Et au final, on est en train de faire un petit peu l'effet inverse où on finit par dire ok, les designers, vous avez votre carré de sable où vous allez pouvoir faire vos prototypes, vous allez pouvoir faire vos needs, vos sites vous-même, etc. Alors qu'au final, on le sait, pour les applications plus complexes, ça ne va pas être possible.
Et vous vous situez là-dedans, moi je fais souvent affaire avec des grandes organisations, les gros Québec de ce monde, les documenteux, les analystes d'affaires, les analystes fonctionnels, la relation qu'on a, et l'absence complète dans Figma de possibilité de dire ceci fait cela. Je dis, la documentation semble encore complètement absente, moi je trouve ça frustrant.
Tu veux pas aimer la réponse?
Non, mais c'est pas une question de non, mais je pense qu'effectivement ça dépend. Alors après, ça dépend des entreprises dans lesquelles on travaille, mais si on regarde aujourd'hui. On va reprendre un vieux précepte du manifesto agile qui dit human interaction over documentation, mais qui veut dire par là, c'est finalement, j'en reviens à la moi je vous donne parce que j'ai plus d'expérience effectivement en start-up, early stage, etc., où j'ai une proximité assez privilégiée finalement avec les développeurs. Et en fait, moi ce que je me rends compte, c'est que on se parle tous les jours. Ils font partie des discussions dans la recherche de la solution et au final, il n'y a pas besoin nécessairement de grosses documentations. Et en fait, moi, ce que je me rends compte, c'est que dans mes expériences passées où j'ai pu travailler dans des grandes entreprises où on a demandé beaucoup de documentation parce qu'il y avait cette scission entre les équipes design et dev, ou d'autres entreprises où j'ai travaillé, où on travaillait vraiment main dans la main, je peux vous dire qu'en termes d'efficacité et de qualité finalement du produit à la sortie, ça a été beaucoup mieux dans des contextes où il y a eu beaucoup moins de documentation, beaucoup plus de collaboration et où finalement...
La documentation n'est pas la réponse à la
collaboration. Je disais à Fabien avant, mais moi il y a des designs, j'ai des Figma qui sont jetables. C'est-à-dire qu'il y a des fois, je fais un Figma, il y a même des fois un certain écran, je vais dire, oublie ça, j'ai pas besoin de designer un écran, je parle au dev, il a déjà les composants, il va plus vite que moi limite pour aller faire le prototype ou faire le... Désolé, on a un participant qui est pas d'accord.
Ah, parce qu'il y a deux chiens.
Ouais. Mais en fait, dans les très grandes organisations, moi, je parle à mes devs. Mais mon problème, il vient pas des devs. Il vient du côté affaires. Puis c'est là que c'est vraiment, vraiment difficile de bridge the gap. C'est toute cette documentation-là, mais aussi toute cette prise de décision qu'on prend au niveau design pour, après ça, parce qu'on se fait toujours dire, ah, ben là, faut aller à prochaine VP, on va enlever des features. Mais à la fin, on doit prendre une... Donc, la prochaine VP, où est-ce que ta solution souhaitée, on doit la documenter en quelque part parce que sinon, elle ne verra jamais le jour. Donc, tout cet aspect-là, je trouve qu'il y a encore... Puis ça, c'est des silos puis des grandes entreprises. C'est ça qui est dommage.
Ça existe encore. Il faut composer avec, je suis d'accord.
Oui. Puis c'est dommage parce que même en tant que designer, avec nos devs qui veulent nous aider, ça nous rajoute des bâtons dans les roues qu'on n'a pas. Mais oui, c'est vrai que la clé, c'est la collaboration.
Ouais, on casse pas le silo avec la documentation. La documentation, elle a un purpose, un but très clair qui n'est pas une meilleure collaboration, qui est plutôt de
l'aide.
Oui, non, mais qui est aussi pour laisser un artefact là où il n'y en aurait pas. Mais je vais donner un exemple. Le CEO de Linear qui a des principes design assez forts et différents, qui travaille quand même avec une assez grosse équipe. Il y a un seul fichier Figma, chaque page a une version, et quand il y a une nouvelle feature à faire, la source de vérité, c'est l'app qui est online. On fait des screenshots de l'app, on fait sa fonctionnalité, on l'implémente en collaboration avec les devs et après le reste c'est comme une napkin, c'est jeté. C'est là en tant qu'historique, ça reste là, ça pourrait autant être jeté que ce serait la même chose parce que finalement la source de vérité de là où on part c'est qu'est-ce qui est en ligne aujourd'hui. Et donc là on est vraiment avec, on laisse le moins d'artefacts possible. Ça demande une autre philosophie, ça demande d'autres façons de travailler. C'est là où je disais que...
La maturité aussi dans la culture...
Oui. Le code, c'est la vérité. Voilà. Puis je suis entièrement d'accord. L'artefact qu'on crée avec Figma, c'est l'expression d'une intention. Et je le dis souvent aussi, c'est une photo d'un site web qui n'existe pas.
Même quand elle est animée, ça reste quand même un faux site web animé.
C'est
quoi.
Une intention, puis à moins de bien collaborer avec ses devs, à moins de... Si ça doit passer par la documentation, ça va être ça. À moins de bien utiliser ces outils-là, puis ces leviers-là qui sont à notre portée, ta photo va ne rester qu'une photo à tout jamais aussi.
Mais pour revenir un petit peu à toi, Jean-François, tu parlais beaucoup, tu sais aussi de la recherche, puis la place un petit peu de la recherche dans tout ça. Je pense qu'il faut réussir un petit peu aussi à dissocier finalement des activités de discovery, de découverte continue, où là justement on va faire entrer de la recherche, on va essayer d'avoir un maximum d'insight pour pouvoir filer un petit peu, nourrir les réflexions design. Et ça, pour moi, ça peut se passer, bien sûr, en dehors de Figma. Figma peut être un super outil pour créer des prototypes, pour aller justement donner des outils à la recherche pour pouvoir faire des tests. Et puis ça, il faut en faire de façon continue. Mais je pense que l'ère où, à l'époque, je me souviens, on faisait des hacks sur, on avait un design, enfin un wireframe, et à côté, on avait des tonnes de textes qui allaient expliquer le comportement et ces choses-là, c'est quelque chose qu'on voit de moins en moins, et je pense pour le mieux, parce qu'au final, ces choses-là interviennent de visu ou avec, en visioconférence, mais en tout cas, où les développeurs sont impliqués bien en amont, et finalement, les développeurs viennent eux-mêmes nous donner des... Moi, c'est là où j'ai eu les meilleures expériences, c'est quand les développeurs étaient partie prenante de la solution et venaient eux-mêmes nous dire, bah, regardez, on pourrait le faire comme ça, on pourrait venir... Et en fait, finalement, leur insight est extrêmement pertinent et très enrichissant, finalement,
pour
la solution.
Les développeurs, c'est intelligent, c'est super créatif.
Exact.
S'ils sont gênés, là, il faut juste aller vers eux. Ils sont aussi créatifs que nous.
C'est un peu comme si on parlait avec une langue juste plus riche, dans le sens où on prend plus des notes et il n'y a plus des notes sur les côtés et tout, mais on peut montrer ça de façon animée. Mais on parle juste avec une langue plus riche, avec plus de choses, où on a plus de feeling, où un développeur ou n'importe qui peut arriver et tester un prototype et avoir le feeling. Mais on n'a pas plus qu'est-ce qui va être implémenté à la fin. Donc la valeur de ça, elle est toujours très, très, très faussée, dans le sens où derrière, ce qui compte, c'est qu'est-ce que l'utilisateur utilise et comment il interagit avec. Moi, il y a une toute dernière question que j'aimerais peut-être vous poser ou un petit commentaire. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez entendu parler un petit peu de ces nouveaux joueurs qui sont arrivés en tant que concurrents de Figma. On a Figma qui est devenu le leader. Hein, et Figma, c'est devenu la grosse machine maintenant qui un peu remplace Adobe et que les gens aiment à se plaindre un peu comme nous ce soir que c'est devenu une grosse machine. On a plein de nouveaux petits joueurs. On a Penpot qui est open source. On a Creatier.ai qui est le concurrent chinois qui intègre l'AI d'une façon très différente et plutôt intelligente. Et on a aussi Scene.io qui est aussi un nouveau joueur. Et tous ces petits joueurs viennent essayer de manger un petit peu de marché de Figma pour les utilisateurs qui cherchent encore du gratuit et qui aimeraient une autre façon de faire plus légère. Qu'est-ce qu'on en pense un petit peu pour l'avenir du design et pour l'avenir de Figma, tout ça?
J'élargis un petit peu la question en demandant, est-ce que un logiciel comme Figma, comme Adobe, XD qui a disparu, qu'est-ce que ça va prendre pour un logiciel pour faire sa place dans le futur? Qu'est-ce qui est dans le développement numérique quelque chose qu'on va avoir de besoin bientôt? Conversationnel? Mais maybe not. XD s'y était essayé un peu, mais c'était pas ça. Est-ce que ces logiciels-là vont tirer leur épingle du jeu en sortant quelque chose ou en se consacrant à un marché que Figma va ignorer parce qu'ils sont obligatoirement dans l'interface visuelle?
Penpot, je le trouve bien intéressant. Étant open source, on ne peut pas l'acheter. Si on regarde Blender qui domine au niveau de la communauté, c'est gratuit, c'est hyper puissant, tu peux faire des films de A à Z. Penpot n'est pas là encore, mais il s'en approche. Si on se souvient, là, Figma, les killer features quand c'est sorti, c'était « ça marche sur Windows, et puis regarde, on est en multijoueur ».
En multijoueur, on est en ligne, il y a pas de... c'est agnostique de plateforme.
Il va falloir égaliser, je pense, les capacités de Figma et trouver un truc du genre pour aller de l'avant. Penpot, c'est peut-être le truc, le fait que Figma s'est rendu, ça coûte tellement cher, ça ne scale pas selon nos besoins. Peut-être que ça va être Penpot. Je le suis d'une distance moyenne. J'ai peur. Ils sont une petite équipe, ils sont bien puissants. Ils ont aussi l'avantage d'être tellement arrivés plus tard que Figma qu'ils ont une bonne idée de qu'est-ce qu'ils doivent bâtir pour avoir un minimum de succès.
C'est un peu la stratégie de Figma quand c'est sorti.
Absolument. Ben oui, Figma,
c'est comme
Figma,
refait Sketch,
on met
mais on le fait en ligne. Voilà. Et puis, et là, on refait Figma, mais on le fait avec notre petite sauce à nous, Creaty, qui est comme on va intégrer de l'AI, mais de façon très, très différente dessus. Mais là, les autres fonctionnalités sont quasi les mêmes. Toi, tu avais
Je pense que Figma est tellement rendu dans les très, très grandes entreprises, les grosses structures organisées pour vraiment beaucoup d'utilisateurs. Je pense que de le ramener, justement, on était les pigistes qui disaient qu'on ne trouvait pas vraiment notre point. Pour les plus petites organisations, je pense qu'il y a quand même un marché il est probablement moins payant que les grandes organisations de ce monde, mais ça reste quand même des utilisateurs qui pourraient être plus facilement gagnables, surtout avec des solutions qui sont open source ou plus facilement accessibles. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à faire là. Puis aussi, tout qui avait été amené par Sketch, par les plugins et qui est encore là avec les plugins dans Figma, cette flexibilité-là de prendre le logiciel comme une base puis de le ramener à tes besoins aussi, je pense que c'est devenu de plus en plus un incontournable là, dans tout ce qui est logiciel de conception. Là.
Ouais, ce que j'entends par là, c'est qu'il y a une longue liste de fonctionnalités qui ont été amenées au cours des années, qui sont maintenant devenues des requis de base pour arriver à être un gros joueur sur le marché. Et ben on va continuer d'utiliser Figma pendant un bout, et puis on verra bien ce que ça donne. Merci tout le monde, merci Stéphanie, merci Alexis, merci Alban, merci Jean-François. On a un
ouais,
peu passé
merci à toi.
Beaucoup de temps, mais je pense que le sujet est super intéressant et qu'il y aura encore beaucoup à dire. Et puis on attend de savoir sur les réseaux sociaux et tout ça ce que vous aurez à dire là-dessus. C'est des débats qu'il faut garder ouverts. Merci tout le monde.
Merci.
Like and subscribe.